Chapitre 5. Un calcul. La perte d'Edgar parut mille fois plus cruelle à Camilla, dans une circonstance où, sans doute, il aurait pu l'aider à consoler son père et modérer l'impression de l'aveu que Clermont allait faire à son oncle. Elle se voyait non seulement privée de ce secours, mais son départ la réduisait à la nécessité d'ajouter au chagrin de ses parents. Et comment pourrait-elle leur apprendre une semblable nouvelle ? Comment pourrait-elle même rendre son histoire intelligible sans charger le coupable Lionel et lui ravir peut-être tout espoir de pardon? Elle retourna consulter Eugénia, qui proposa de se charger à son retour de cette tâche pénible. Camilla, baignée des larmes de la reconnaissance, accepta son offre généreuse et résolut de passer le reste de son séjour à Southampton avec Mrs. Burlington, qui redoublait pour elle de caresses et d'affection depuis qu'elle la voyait dans la douleur. Elle déplorait la peine d'Eugénia et la conduite de son frère, que l'amertume de ses regrets retenait dans sa chambre. Melmont n'en sortait plus. La sensibilité de sa jeune amie calmait la douleur de Camilla. Mais Mrs. Burlington étant allée rendre quelques visites, Mrs. Mittin accourut familièrement dans sa chambre. « Ma chère Miss, s'écria-t-elle, je vous rapporte de meilleures nouvelles que vous ne pensez. Devinez ce que ce peut être. » Rien ne pouvait être moins propre à tranquilliser Camilla que cette incertitude. C'était toujours son désir qui dirigeait ses conjectures. Elle imagina que Mrs. Mittin, informée de sa situation, venait lui donner des nouvelles d'Edgar. Après l'avoir tenu pendant un quart d'heure en suspens, elle lui dit enfin « Savez-vous que Miss Denel va se marier ? Elle n'a cependant que d'hier ses 15 ans et je suis invitée. » Il était difficile d'instruire Camilla d'une chose qui lui fut plus indifférente. Elle cessa d'écouter. Mais Mrs. Mittin ne cessa point de parler et l'attention de Camilla fut réveillée par la phrase suivante. « Nous allons faire ensemble ces achats et vous me donnerez de l'argent pour payer à Tunbridge vos emplettes. » Elle tira de sa poche des mémoires qu'elle venait, disait-elle, de recevoir, quoique elle les eût depuis plus de 8 jours. Mais jusqu'au moment où Miss Mittin trouva chez Miss Denel un nouvel asile, elle avait gardé le silence afin de donner à son séjour chez Mrs. Burlington une sorte d'importance. Camilla prit en tremblant les mémoires de Tunbridge. Ils se montaient ensemble à la somme de 16 guinées. Quelle fut sa terreur en voyant porter à 16 louis le prix des bagatelles qu'elle avait achetées à Tunbridge. Que devaient donc lui coûter les articles incomparablement plus chers qu'elle devait à Southampton? À qui s'adresserait-elle pour les payer? Lionel, encore mineur, fuyait de l'Angleterre sans acquitter ses dettes. Et quelque médiocre qu'elle pussent être, M. Tyrold, avec un revenu très borné, ne pouvait pas plus y faire face que son oncle aux 1000 guinées de Clermont. À qui donc demander du secours? Eugénia, qui recevait, en qualité d'héritière présomptive, une pension 5 fois plus forte que celle de ses sœurs, s'était épuisée avant de quitter Clèves pour l'aventure du cheval. Et ce qui lui restait venait de passer entre les mains de Lionel. Mrs. Burlington avait contracté des dettes d'honneur et cherchait de l'argent pour son compte. Mrs. Arbery était la seule de ses connaissances assez riche pour la tirer d'embarras. Mais elle lui devait déjà 5 guinées. Et comment emprunter d'elle une somme considérable sans pouvoir fixer un terme pour la restitution? Dans cette perplexité terrible, sans conseil et pleine de troubles, s'approchait le moment de retourner dans la maison paternelle. « Non, s'écria-t-elle, je ne porterai point de nouvelles calamités à mon père. Il serait indulgent, mais je lirai dans ses yeux sa douleur, et dût-il m'en coûter le bonheur de toute ma vie, je ne voudrais pas le voir un instant malheureux par ma faute. » Elle se jeta sur son lit et fondit en larmes, sans prendre garde à Mrs. Mittin et sans songer à lui répondre. Dans les affaires de cette nature, Mrs. Mittin, quoique très médiocre d'ailleurs, avait un tact extraordinaire. Du peu de mots qu'elle avait entendu prononcer à Camilla, Mrs. Mittin conclut qu'elle était gênée dans les moyens pécuniaires. Son imagination, aussi fertile en expédients pour l'intrigue que dénuée de toute autre espèce de conception, forma rapidement un plan pour la tirer d'embarras, persuadée qu'elle allait s'attacher pour la vie une opulente héritière. Elle ne tarda pas à l'informer de ses vues. Camilla saisit avidement un espoir qui la rassurait. Miss Rinmitin avait parmi ses connaissances un monsieur Clyke, prêteur d'argent, à qui tous les gens de distinction s'adressaient dans leurs besoins. « Si vous voulez, dit-elle à Camilla, qu'il se charge de toutes vos dettes, monsieur Clyke les paiera. Vous le rembourserez à votre aise en lui payant parfois un intérêt raisonnable de la somme qu'il vous avancera. » Camilla, transportée de joie, fut prête à lui sauter au cou. Sa pension était plus que suffisante pour payer les intérêts, et pour le principal, elle comptait sur la générosité de son oncle. Elle donna carte blanche à Mrs. Meeting pour la conduite de cette affaire. Elle la pria de rassembler le lendemain tous ses mémoires de Southampton, d'y joindre la somme due pour les loyers et pour les marchandises de Hayden, et de convenir d'un présent et des intérêts. Elle lui promit de ratifier tout ce qu'elle aurait fait et de conserver toute sa vie la plus vive reconnaissance d'un si grand service. C'était avec peine qu'elle employait un agent dont Egdar avait si mauvaise opinion, mais elle ne savait point résister au désir d'éviter un danger pressant. Dès le lendemain, l'active Mrs. Meeting apporta les comptes de tous ses achats à Southampton. Elle avait d'abord soupçonné Camilla d'avarice, mais il lui paraissait alors évident qu'elle était sous la loi d'un père parcimonieux qui la tenait de si court qu'elle ne pouvait pas s'accorder la moindre jouissance avant la mort de l'oncle dont elle héritait. Le collier, les boucles d'oreilles, les franges et les paillettes d'argent, les plumes, le bouquet, les roses de soulier et le reste de l'habillement bordé de dentelle montaient à 18 guinées. Le mantelet, que Mrs. Meeting avait traité de bagatelle, coûtait 9 guinées, et les autres petits articles indispensables augmentaient encore le compte de 5 guinées. En ajoutant à ceci 18 guinées pour les loyers de Hayden et les 30 guinées pour ses marchandises, qui se trouvaient portées au compte pour 37 guinées, le total, en comptant les 16 guinées de Tunbridge, montait à 118 guinées et 9 shillings. Mrs. Meeting, investie de pouvoirs illimités, se disposait à partir pour Londres pour y traiter cette affaire. Miss Denel l'y attendait. Elle devait présider à ses achats et l'accompagner ensuite chez son père dans le comté de Hampshire. De là, Mrs. Meeting se proposait de faire une visite à Essrington et d'y régler définitivement la transaction. Après 1000 remerciements, Camilla la quitta pour retourner chez Mrs. Burlington, qui supportait impatiemment son absence et regrettait vivement de n'avoir pas toujours donné la préférence à sa société. Elle était sans argent et plus malheureuse que Camilla parce qu'elle avait de plus grands torts. Tandis qu'elles pleuraient ensemble, en tâchant de se consoler réciproquement, on vint avertir Camilla qu'Eugénia désirait lui parler. Mrs. Burlington, honteuse et cependant charmée de la revoir, descendit avec sa sœur. Elle l'embrassa tendrement, sans oser dire un seul mot du dernier événement. Eugénia, triste mais tranquille, laissait souvent échapper des soupirs en recevant et lui rendant ses caresses. Camilla lui demanda si Miss Margland l'attendait à l'instant même. « Oui, lui dit-elle, mais j'ai d'abord terminé une affaire personnelle. » Et se retournant vers Mrs. Burlington, « Vous serez peut-être surprise, lui dit-elle avec un sourire forcé, de m'entendre demander « Monsieur, votre frère. Mais il faut que je le voie avant de quitter Southampton. » Mrs. Burlington, déconcertée, répondit en baissant les yeux. « Il est sans contredit bien coupable, mais si vous saviez le respect... » Eugénia tira la sonnette en faisant quelques excuses de cette liberté, mais sans écouter ce que Mrs. Burlington tâchait de dire. « Voulez-vous bien, dit Eugénia au domestique lorsqu'il parut, informer M. Melmont que je désirerais lui parler ?» Camilla, surprise, et Mrs. Burlington confuse, attendirent en silence. Melmont fit, en rougissant, une profonde révérence. Eugénia tressaillit lorsqu'il parut, et, tirant de sa poche un billet plié, elle lui dit, en tâchant de sourire, « Je crains que ma visite ne vous ait causé du déplaisir. » Mais j'espère que vous me verrez pour la dernière fois sans répugnance. » La voix lui manqua. Elle se tut pour reprendre haleine. Melmont s'efforçait d'articuler des excuses et des protestations de respect. « Monsieur, dit Eugénia, je connaissais depuis longtemps mes défauts personnels et je ne conçois pas comment j'ai pu me flatter. Mais cette conversation pénible doit vous tourmenter et je vais l'abréger autant qu'il me sera possible. » Melmont, dont la confusion augmentait à chaque instant, penchait la tête et tenait ses yeux baissés, tandis que Mrs. Burlington et Camilla pleuraient. « J'ignorais, monsieur, poursuivit Eugénia, les sentiments de ma cousine, mais il ne m'est pas difficile de juger ce qu'ils doivent être. Le défaut de fortune est le seul obstacle à vos désirs mutuels. Je ferai, monsieur, tous mes efforts pour détruire cet obstacle. J'ai quelque influence sur l'esprit de mon oncle et j'espère qu'en lui représentant que j'ai pensé faire le malheur de deux personnes qu'il aime, il ne refusera point de m'aider à les rendre heureuses. Mais comme il s'est engagé positivement en ma faveur à ne jamais disposer d'aucune partie de sa fortune, j'ai tâché d'obvier dans ce billet à toutes les inquiétudes que vos amis pourraient avoir pour l'époque malheureuse où mon généreux oncle cessera d'exister. Voici le contenu de ce billet. Je m'engage solennellement, si Miss Indiana Lindmer accepte la main de Frédéric Melmont, avec le consentement du chevalier Hugh Tyrold, à partager avec eux, aussitôt après leur mariage, en deux portions égales et durant toute ma vie, la fortune et les biens quelconques qui pourront m'échoir, et je m'engage pareillement de leur léguer cette part à ma mort dans mon testament. Eugénia Tyrold. La reconnaissance et l'admiration avaient précipité Melmont aux pieds d'Eugénia, et, quoique très émue, elle tâcha de le relever. « Votre surprise me ferait croire, lui dit-elle en tâchant de prendre le ton de la plaisanterie, que vous jugiez de mon âme par mes traits. »« Ah, miss, s'écria Melmont hors de lui-même, votre cœur est si sensible et si généreux que si le mien était à ma disposition, je compterais encore sur votre indulgence. » Non, non, dit-elle en tâchant de cacher l'émotion que ces derniers mots lui causaient. « Je vous donnerai sous très peu de temps de mes nouvelles et vous pouvez compter sur tout le succès qui dépendra de mon amitié sincère. » Elle voulut lui tendre la main, mais le courage lui manqua. Elle embrassa Mrs. Burlington, prit le bras de Camilla, puis disparut précipitamment, suivie du domestique qui l'avait accompagnée. Melmont était encore plus troublé qu'elle. Il la considérait comme transformée tout à coup en divinité bienfaisante qu'il devait adorer. Mrs. Burlington partageait l'admiration de son frère et doutait que la belle Indiana pût le rendre aussi heureux que sa cousine. Les deux sœurs trouvèrent Miss Margland qui les attendait avec beaucoup d'humeur. Elles partirent aussitôt de Southampton. Il arrivait souvent à Miss Margland d'être acariâtre pour se donner un air d'importance. Mais dans cette occasion, elle était véritablement affectée. Elle était venue à Southampton, très persuadée que sa charmante pupille formerait l'établissement qu'elle assurait depuis si longtemps être immanquable. Et Indiana, remplie des plus hautes espérances, croyait elle-même que la renommée de sa beauté captiverait toute la noblesse de l'Angleterre, aussitôt qu'elle daignerait se présenter au regard du public. Le commencement sembla d'abord répondre à ses espérances. On ne parlait que d'Indiana Lindmer, on ne regardait qu'elle. Toutes les autres semblaient mériter peu d'attention. Mais ce triomphe brillant ne se soutint pas. Elle s'aperçut que l'hommage des yeux ne conduisait pas toujours à celui du cœur, et quoiqu'un jeune baronnet, épris de ses charmes, se fût immédiatement déclaré son soupirant, lorsqu'elle l'eut rejeté dans l'attente d'une victoire plus brillante, et parce qu'un père avait fait une sorte de cour à Eugénia, elle ne le vit point remplacé par un autre, et lui-même, il n'eut pas l'air fort affligé de son peu de succès. Après avoir conversé quelques minutes avec elle, les gens de goût trouvaient qu'il valait mieux s'en tenir à la contempler. Les aventuriers ne tardèrent pas à découvrir que son doux air n'était composé que de ses charmes, et les manières dédaigneuses de Miss Margland éloignèrent la foule ordinaire. Tout enfin concourut à prouver que, quoiqu'il fût encore d'usage d'offrir à la beauté quelques grains d'encens, ce n'était plus toutefois le temps où le temple de l'hymen ouvrait ses portes à sa seule recommandation. La gouvernante et sa pupille furent également mécontentes de leur excursion. La première bâillait d'avance en retournant à Clèves, qu'elle considérait comme une prison, et l'autre, se croyant une déesse, était sérieusement courroucée d'avoir été réduite à l'encens d'un seul mortel qui ne daigna pas même lui renouveler son hommage. Un jeune lord complètement ruiné s'était adressé à Eugénia au moment de son arrivée. Mais comme Melmont l'occupait tout entière, elle n'y fit pas la moindre attention. Elle était alors considérée comme l'héritière de Clèves, mais Mrs. Mittin ayant assuré les marchands que c'était Camilla, cette version gagna crédit. Eugénia fut oubliée. Les deux rapports laissèrent cependant une incertitude qui débarrassa Camilla des chercheurs de fortune. Un autre bruit éloigna d'Eugénia non seulement les épouseurs, mais presque toutes ses connaissances. On répandit qu'elle était la pupille du docteur Hochborn, et la réputation d'être hérissée de latin et de grec parut encore plus choquante que sa difformité. Les jeunes demoiselles fuyaient en ricanant, loin de la savante, les élégants la regardaient d'un air de dédain. « Heureusement, disait-il, elle est trop laide pour qu'on puisse être tenté de l'épouser. » Quelques-uns présumaient que ses études l'avaient empêchée de grandir, et tous étaient convaincus qu'elles avaient contribué fortement à sa laideur. Le docteur Hochborn fut le seul qui quitta gaiement Southampton. Il se réjouissait de n'être plus sous la férule de Miss Margland, qui l'arrachait sans cesse à ses occupations chéries, et ne se plaignait pas moins de son absence, de sa négligence et de son peu d'usage du monde. En revanche, le docteur affiché, comme presque tous ceux qui ne possèdent point les avantages d'une naissance distinguée, le plus grand mépris pour ses privilèges. Il la considérait, elle et ses ancêtres, comme la peste de la race humaine, et s'écriait, lorsque ses importunités l'impatientaient, « Quelle différence peut-on trouver entre une bête et l'homme ou la femme dont l'esprit n'est point cultivé ?»